Chapitre 9. À peine sorti, Nicolas s'efforça d'oublier cette aventure. Il avait l'impression que M. Simonet le méprisait, mais qu'il était assez bien élevé pour ne point le laisser paraître, et cette dernière délicatesse aggravait son humiliation. « Ce n'est pas possible qu'un homme aussi intelligent ne s'aperçoive pas de ma vilenie. » La phrase suivante que le vieillard avait prononcée, « Si je me souviens bien, je vous ai déjà donné quelque chose », revenait sans cesse à l'esprit de Nicolas. Entre-temps, il se prenait à espérer que c'était peut-être un côté de M. Simonet de ne point remarquer les bassesses. Il était tellement bouleversé et il est à présent si heureux qu'il n'a pas le temps de penser à moi. Qu'est-ce que c'est pour lui 2000 francs? C'est comme pour moi 5 francs. Nicolas avait la manie de donner à l'argent une valeur relative. Pour un millionnaire, c'était un sou. Ce raisonnement lui servait d'excuse quand il avait gaspillé quelque argent. « Après tout, ce n'est rien pour d'autres, » disait-il alors. Dans l'espoir de rencontrer Simone, Nicolas se dirigea vers le Monaco. La perdre, alors qu'elle désirait le revoir, lui causait un sentiment désagréable. Aussi, pour retrouver sa tranquillité, voulait-il avoir la certitude qu'elle ne tenait pas à lui. « Si je lui ai plu, elle ira certainement au Monaco à la même heure qu'avant-hier. Elle y a peut-être été hier déjà. Elle reviendra aujourd'hui. Sinon, je lui suis indifférent. » En ce dernier cas, il sentait qu'il l'oublierait rapidement. Le café était désert. Des mouches volaient au milieu, ainsi que dans une pièce ordinaire. L'horloge marquait 5 heures. Il s'assit à la même place que l'avant-veille et, ouvrant un journal, se plongea dans la lecture. Chaque fois qu'il entendait des voix de femmes de l'autre côté de la cloison, son attention était aux aguets. Il se demandait s'il la reconnaîtrait immédiatement. Parfois, un client s'arrêtait au seuil de la salle, cherchait quelque chose des yeux, puis disparaissait. Enfermé dans le café, loin du va-et-vient de la rue, apaisé par le peu d'argent qu'il possédait, Nicolas se sentit tout à coup pris d'un besoin immense d'amitié. Il avait déjà bu 2 verres d'alcool et une légère ivresse le rendait optimiste. Au fond de son âme, une voix lui disait qu'il était jeune, sain, qu'il avait tout ce qu'il fallait pour rendre une femme heureuse. Il se mit à chantonner. De toutes ses forces, il souhaitait la venue de Simone. Il imaginait les caresses qu'il lui donnerait. Aucun homme n'aurait sa douceur et sa passion. Pour connaître de tels instants, il lui apparut naturel d'éprouver l'anxiété de cette attente. Il allongea les jambes, posa les mains sur la table et se mit à penser à Simone. Soudain, elle parut. Bien qu'il l'eût reconnue, il craignit une seconde, tant cela lui semblait beau, que ce ne fût pas elle. À la vue de Nicolas, elle simula l'étonnement. « Vous venez donc tous les jours, monsieur ?»« Je suis venue pour vous. » Elle s'assit près de lui, ôta son chapeau, se peigna sans glace d'un geste qui lui était familier, puis, une fois préparée, après avoir commandé par coquetterie une liqueur douce, comme si tout ce qu'il y a d'ennuyeux était fait, elle se tourna brusquement vers Nicolas et dit en riant « Alors, vous êtes venu ?»«
Comme vous voyez. »«
Par habitude ou pour moi ?»«
Pour vous. »
Une lueur de joie brilla dans ses yeux.
« C'est bien vrai ?»«
Puisque je vous le dis. »«
Alors, tout ce que vous me dites est vrai ?»
Se rendant compte tout à coup qu'elle n'avait cessé d'interroger, elle ajouta
« J'ai chaud, je viens de marcher vite !»
Comme si elle avait passé la journée avec le jeune homme, elle était à l'aise. À cela, Nicolas devina qu'elle ne l'avait pas oublié et qu'elle s'était familiarisée avec lui durant ces 2 jours.
« Et les messieurs » demanda-t-il.
« Des petits camarades, si vous croyez que j'ai été avec eux à Versailles ?»
Ils vont sans doute venir tout à l'heure.
Je ne pense pas. Je leur ai dit que je ne viendrai plus dans ce café. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait hier? Je pensais que vous viendriez ici.
Vous êtes venu?
Vous voudriez le savoir.
Au souvenir de l'après-midi de la veille, durant laquelle il avait sonné d'heure en heure chez Charles, Nicolas s'assombrit.
Qu'est-ce que vous avez?
Rien.
On dirait que vous êtes triste.
Elle le regarda avec attention, cherchant à deviner à quoi il pensait. Nicolas leva les yeux. « Je vous regarde comme vous me regardez, » dit-il. L'intérêt que lui portait Simone l'étonnait. Il ne pouvait croire qu'elle éprouvât quelque joie à se trouver en sa compagnie. Aussi, de timide qu'il avait été, devenait-il plus entreprenant. Il avait l'impression très nette que maintenant c'était fait, qu'elle lui appartiendrait tôt ou tard. Il lui apparut que le nombre de jours qu'il faudrait attendre ne dépasserait pas 15. Mais cette réflexion, au contraire de celle qu'il avait faite au début d'autres aventures, quitta tout de suite son esprit. En réalité, peu lui importait d'attendre des mois. « Elle tiendra encore plus à moi après, » pensa-t-il. Il eut honte de ce calcul au point de vouloir tendre, à partir de cet instant, à la perfection. En dehors de Simone, personne n'existait plus pour lui. Mais, devant ce bonheur naissant, il éprouvait une impression désagréable à la pensée de l'avenir lamentable qui se dressait devant lui et qui serait peut-être cause de la rupture. « C'est toujours vous qui baissez les yeux le premier, » dit-elle. Ces mots le piquèrent au vif. Se faisant violence, il posa sur elle un regard d'une fixité telle que ce fut elle qui détourna la tête. Il avait oublié sa condition. Le monde n'existait plus autour de lui. Il eut un sentiment de fierté à la pensée que d'autres hommes eussent désiré être à sa place et que, s'ils y avaient été, ils eussent déjà tenté de profiter de la situation, alors que lui veillait à ne faire aucun geste ni à prononcer aucune parole qui eussent froissé la jeune fille. Il imagina même un homme quelconque s'efforçant de la saisir par la taille et Simone, épouvantée, reculant pour échapper à l'étreinte. Cet homme, il le voyait si nettement en son esprit qu'il lui inspira du dégoût de froisser ainsi une jeune fille au moment où, confiante, elle consentait à l'écouter et il pensa que, même pour beaucoup d'argent, il n'eût pas approché une main de Simone. Soudain, bien que cela n'eût aucun rapport avec la conversation, il demanda « Est-ce que je vous suis sympathique ?» Une seconde durant, elle le regarda, puis, souriante, elle prit une attitude de peintre devant un modèle. « Tournez-vous, je vais vous le dire. Il faut que je vous voie avant de profil. » Bien que ce ton badin eût choqué Nicolas, il obéit. Mais déjà le fluide était parti et il n'attachait plus d'importance à la réponse. « Oui, vous m'êtes sympathique. »« Vraiment ? Je vous le dis. Ce n'est pas une raison. »« Et je le pense. » Elle prononça ces mots avec tant de sincérité et une expression d'attachement telle qu'il fut un instant ému. Puis il se réfugia en prenant ce même ton qui, venant de Simone, l'avait blessé. « Si je ne vous plaisais pas, vous vous garderiez bien de me le dire. » Cette fois, ce fut elle qui se froissa. « Je ne vous oblige pas à me croire. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. » Ils se turent. Dans un élan où il y avait du remords, Nicolas posa sa main sur celle de Simone et, comme s'il avait commis une faute, la retira aussitôt. « Je ne sais pas si je vous plais, mais vous, vous me plaisez beaucoup. » Elle sentait que tout à l'heure, elle avait froissé le jeune homme lorsqu'il lui avait demandé s'il lui était sympathique. Aussi, malgré le désir qu'elle avait de demander pourquoi, afin de provoquer de nouveaux compliments, elle répondit avec ironie en se tournant de profil afin de montrer qu'elle agissait de la même manière quand il s'agissait d'elle. « Et comme cela ?»« Plus encore !» « Alors, avant, je ne vous plaisais pas entièrement ?» Nicolas balbutia quelques mots. Le voyant troublé, elle s'excusa avec douceur. « Nous parlons comme cela pour rire. Ne m'en veuillez pas. Je suis tellement seule toute la journée que lorsqu'il m'arrive de parler à un homme comme vous, je me laisse aller. Cela vous arrive souvent ?» Nicolas avait beau se défendre d'être soupçonneux, c'était plus fort que lui. Quoi qu'on lui dit, il trouvait toujours un point à reprendre. Il était si jaloux qu'il découvrait dans les paroles les plus anodines sujet de lettre. « Comme vous êtes défiant !»« Non, je ne sais pas. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je parle comme cela sans réfléchir. »« Qu'est-ce que cela doit être quand on vous connaît davantage ?»«
Je ne peux pas vous répondre, je ne me suis jamais trouvé dans de telles circonstances. »
Ah oui, vous êtes un homme exceptionnel.
Les autres ne le sont pas.
S'apercevant qu'il s'était encore laissé aller à son penchant, il répéta
« Les autres ne le sont pas. »
Mais cette fois, sans le ton interrogateur, ce qui priva la phrase de sens, si bien que Simone ne remarqua rien et répondit naïvement
« Je ne crois pas. »
Nicolas redoutait toujours que quelques camarades de la jeune femme rendrât au Monaco.
« Voulez-vous que nous sortions ?»«
Oh oui, je ne demande pas mieux. »
À peine dehors, ils s'arrêtèrent, ne sachant où aller.
« À gauche ou à droite ?» demanda Simone.
« Qu'est-ce que vous aimez mieux ?»«
Comme vous. »
« À gauche, alors. »
Ainsi, il s'éloignait de l'hôtel Excelsior, dans les parages duquel il eut craint de rencontrer sa mère. Comme si l'air eût changé leur état d'esprit, la conversation prit un tout autre tour. Ils cessèrent de parler dans le vague. On eût dit que les chemins précis que suivaient les passants pour se rendre chez eux, les autobus allant d'un point précis de Paris à un autre, les couples plus avancés qu'eux qui se tenaient par le bras, les eussent amenés à chercher à se mieux connaître.
« Vous habitez avec votre mère ?» demanda Nicolas.
« Non, je vis seule. Elle est morte il y a un an. Et vous ?»«
Moi, je vis avec elle. »
La chambre où Madame Aftalion devait se trouver à présent se présenta devant ses yeux et il eut l'appréhension qu'un jour, Simone ne le connût assez pour venir le chercher à l'hôtel et le trouver dans cette pièce modeste.
« Vous travaillez, peut-être ?»«
Je couche chez moi. Je fais des travaux pour d'anciennes clientes de ma mère. Elle avait une belle clientèle. À un moment, elle faisait même les robes de la princesse de la Manie. »
Nicolas ne put se défendre d'un sentiment d'une bassesse telle qu'il en rougit. En l'espace d'une seconde, il avait imaginé que, grâce à Simone, il faisait connaissance de cette princesse, qu'ils se mariaient avec elle et que tous deux voyageaient autour du monde, descendant à chaque étape dans les plus grands hôtels.
« C'est avare et méchant, les princesses !»«
Pas toutes ! Si vous aviez vu Mademoiselle de la Manie, jamais elle n'a fait un reproche à maman. Elle venait chez nous et son automobile l'attendait à la porte. Pourtant, elle était aussi simple que moi. »«
Mais vous la voyez toujours ?»
« Non, elle est retournée en Italie. »
À ces mots, Nicolas ressentit un profond soulagement. De peur que la jeune fille ne continuât à lui parler de la princesse de la Manie, il dit brusquement
« Alors, vous êtes seule à présent ?»«
Mais vous m'en posez des questions. Et moi, si je vous demandais ce que vous faites ?»«
Oh, moi, c'est très simple. Je viens de finir mes études et j'attends une situation. »
À mesure qu'ils apprenaient l'un sur l'autre des détails nouveaux, ils se sentaient de plus en plus éloignés. Chaque aperçu sur leur caractère, leurs occupations, leurs familles, les entraînait vers des profondeurs inconnues. Le sentant obscurément, Nicolas fit en riant
« On reparlera de tout cela un autre jour. Voulez-vous être gentille ?»«
Oui. »
« Eh bien, on dînera ensemble. Après, on ira au cinéma. » Puis je vous raccompagnerai jusqu'à votre porte. »
À minuit, Nicolas regagna l'hôtel Excelsior. Il ne cessait de songer à Simone. Sa mère dormait. Il s'assit à la fenêtre. Les étoiles dans le ciel étaient si nombreuses qu'elles formaient une nappe lumineuse. Un sentiment de jalousie le poussait à redescendre et à faire les 100 pas devant la maison de Simone. Il lui semblait singulier d'être tombé juste au bon moment dans la vie de cette jeune fille. Cet à-propos lui avait jusqu'alors toujours paru impossible à atteindre. Tant de fois, des femmes qui lui avaient plu avaient déjà eu soit un mari, soit un amant, soit des parents sévères qui ne pouvaient admettre que Simone fût entièrement libre. Un raisonnement le remontait. Il fallait tout de même bien qu'un jour la chance le favorisât, puisque les hommes, même moins bien que lui, avaient tous une femme ou une amie. Mais des souvenirs ne tardaient pas à l'ébranler de nouveau. Cette étudiante qu'il avait courtisée il y avait 5 ans, ne lui avait-elle pas finalement avoué qu'elle ne l'aimait pas, alors que toute son attitude avait jusqu'alors laissé deviner un amour profond? La versatilité du caractère féminin le déroutait. Il ne comprenait pas, en outre, que les femmes parussent privées de désir et recherchassent pourtant la compagnie de l'homme. Dans une chambre voisine, on entendait des pas. À la clarté pâle de la nuit, il apercevait distinctement le visage de sa mère, auquel les paupières baissées prêtaient une douceur qu'elle eût tant désiré connaître. Déjà, il s'imaginait qu'il se rendait chez Simone, qu'il la serrait contre lui, qu'il l'embrassait et la dévêtait. Personne ne les dérangeait. L'appartement où il était enfermé avec elle se trouvait à l'étage le plus haut, loin de toute autre demeure. Les tentures étaient tirées, la porte et les volets soigneusement fermés. Des coussins gisaient sur les tapis. Une lumière rose éclairait la chambre à coucher. La nuit était trop avancée pour que le concierge ou un voisin les dérangeassent. Elle se défendait un peu. C'était lentement qu'il la dévêtait. Finalement, Simone se glissait dans le lit. Il vivait le moment interminable et ennuyeux où seul il se dévêtait à son tour pour la rejoindre à la hâte, tant il craignait que dans l'intervalle, l'idée de le repousser ne lui fût venue. Son agitation était si grande qu'il pensa sortir et accoster n'importe quelle femme. Mais le visage de la jeune fille reparut devant ses yeux. Il comprit que ce n'était qu'elle qu'il désirait, que ce n'était que sa bouche qu'il voulait voir se serrer, que ses yeux se fermaient. Il trembla à la pensée qu'il posséderait un jour ce corps et que ce visage serait là à ce moment. À mesure que la nuit avançait, ses désirs se faisaient plus violents encore. Dans cette chambre où reposait sa mère, il se sentait à l'étroit. De peur de l'éveiller, il n'osait quitter sa chaise. Soudain, il pensa que Simone avait peut-être une infirmité. Cela le glaça. D'un seul coup, il retrouva son calme. Mais le remords d'avoir fait une telle supposition ne tarda pas à transformer son excitation en une tendresse pure. Il la regarderait dormir. Ses moindres caprices, il les satisferait. Le matin, tous deux s'habilleraient rapidement et iraient passer la journée à la campagne. À la fin, il se coucha sur le divan, dont les draps, parce qu'il n'y avait pas de matelas, pendaient jusqu'à terre. Mais il ne put s'endormir. Les suppositions les plus folles traversaient son esprit. Elle n'habitait pas la maison à la porte de laquelle il avait accompagné. Elle était mariée. Elle avait plusieurs amants. Sa mère vivait encore et n'était jamais venue à Paris. Elle avait joué la comédie de l'honnêteté afin de lui demander de l'argent. Il était impossible qu'en le connaissant à peine, elle lui eût dit aussitôt toute la vérité. Elle cachait certainement quelque chose. Tout le monde a, au moins, un secret. Lui, Nicolas, ne lui avait-il pas dissimulé sa pauvreté? Aucune de ces liaisons n'avait commencé aussi bien. Cela avait toujours été par accroc ou par hasard qu'une femme s'était donnée à lui. Jamais il n'avait eu comme maîtresse une femme qu'avant il avait désirée. Des circonstances particulières, des journées d'ennui au cours d'un voyage, des incidents quelconques seuls lui avaient permis, quelquefois dans sa vie, de nouer des relations avec une femme qui, d'ailleurs, peu de jours après, disparaissait. Jamais on ne s'était offert à lui ainsi que le faisait Simone. Aussi redoutait-il quelque chose. Comme il ne parvenait pas à s'endormir, il se releva et se mit à marcher pieds nus à travers la pièce. Il se souvenait de toutes les tentatives qu'il avait déjà faites. Aucune n'avait réussi quand la femme lui avait plu. Il se souvenait de cette Germaine Roux, qui était une des 3 jeunes filles admises au collège. Une fois, il l'avait embrassée. Elle lui avait alors donné un rendez-vous, mais elle n'y était pas venue. Tant d'emballements s'étaient terminés de cette façon qu'il craignait d'être une nouvelle fois déçu. Mais l'image de Simone se présenta devant ses yeux. Elle est sincère, il n'y a pas de doute. Tout à coup, il lui apparut que l'échec viendrait de lui. Pour une fois que cela peut réussir, je parie que c'est moi qui vais ne pas pouvoir. Il venait de songer à la situation dans laquelle sa mère et lui se trouvaient. Une colère folle monta en lui. Il fallait que sa situation s'aggravât à ce point, juste au moment où il pourrait être heureux. Soudain, il entendit Madame Aftalion qui disait dans son sommeil « Couche-toi !»« Je ne peux même pas faire ce que je veux, » pensa-t-il. Pourtant, il obéit. Il s'adossa à un coussin. Il revit les gestes et les sourires de Simone. Il entendit le son de sa voix. Petit à petit, tout se perdit dans une sorte de brume. Finalement, il s'endormit ainsi, à demi assis. Ce ne fut que plus tard dans la nuit qu'il s'allongea inconsciemment.